1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestant 2017, vivre la fraternité.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette troisième émission consacrée au thème protestantisme et laïcité. Pour en parler, je reçois Jean-Paul Willem, docteur en sciences religieuses et docteur en sociologie, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études et sociologue des protestantismes. Bonjour Jean-Paul Willem.
Bonjour.
De quoi allons-nous parler plus précisément aujourd'hui ?
Ah ben on va parler d'un thème important, la séparation des églises et de l'État en 1905. Contrairement à ce qu'on pense, le mot laïcité ne figure pas dans cette loi, car avant 1905, il y a eu la laïcisation de l'école en 1882, mais il y a eu aussi le mariage civil en 1792, il y a eu la laïcisation des cimetières, des funérailles, il y a donc tout un processus de laïcisation qui ne s'est pas tout de suite traduit par la séparation des églises et de l'État. Et il faut aussi reconnaître qu'on est dans une période où il y a eu des poussées anticléricales très fortes. Alors, dans ces poussées anticléricales, il y a eu l'affaire Dreyfus au tournant du siècle, et il y a eu la lutte contre les congrégations, notamment dans l'enseignement dispensé par les congrégations. Et en 1904, il y a eu l'interdiction d'enseignement par les congrégations, ce qui a fait fuir hors de France quelques milliers de personnes qui étaient engagées dans l'enseignement congréganiste. Alors ça, c'est la phase anticléricale, notamment menée par Émile Combes, qui lui-même a fait un premier projet de séparation des églises et de l'État, très anticlérical, qui plaçait les cultes sous le contrôle de l'État. Mais en 1905, ce n'est pas cette version radicale et anticléricale de la loi de séparation des églises et de l'État qui a été adoptée, c'est une version libérale.
Alors, vous avez rappelé le contexte dans lequel intervient cette loi de 1905. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle contient en substance à ce moment-là ?
Alors, c'est une loi, il y a des aspects très, très techniques qui concernent les édifices du culte, la police des cultes, etc. Mais ce qui est important dans la loi de 1905, c'est les deux grands principes qui sont posés dans les articles 1er et 2 de la loi. L'article 1er, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc l'article 1 affirme la liberté. Et c'est en référence à l'article 1 qu'il faut lire toute la loi. C'est tout d'abord une reconnaissance de la liberté de conscience et de garantie de la libre exercice des cultes. Et comme toute liberté, elle est limitée par le respect de l'ordre public. Aucune liberté n'est absolue. Il y a donc cette limite, respect évidemment de l'ordre public. Et dès l'article 2, qui précise que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, dès l'alinéa 2 de l'article 2, il y a une dérogation qui est prévue pour lorsque les personnes sont retenues dans un endroit comme une prison, un hôpital. Il y a donc des dispositions qui sont prévues pour garantir l'exercice du culte, alors même que pour des raisons impérieuses, on est retenu dans un établissement. Et donc, ces dépenses relatives aux services d'aumônerie sont permises dans le cadre de la séparation des églises et de l'État. Bon, c'est déjà important à noter, ce n'est pas une interdiction générale de financement, mais ce qui prime, c'est le respect de la liberté de culte. Un autre aspect qui est extrêmement important et qui a fait l'objet de discussions, c'est dans l'article 4 de la loi de séparation des églises et d'État 1905, le fait que les associations qui se formeront pour l'exercice du culte doivent se conformer aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice. Autrement dit, l'État n'impose pas un mode d'organisation aux groupes religieux. Il respecte la façon dont chaque groupe religieux s'organise. C'est la liberté selon la façon dont chaque groupe comprend sa mission et veut s'organiser. Et donc, c'est un article qui reconnaît la liberté d'organisation des différents cultes.
Alors, la laïcité s'applique quand même d'abord dans le cadre de l'école, on l'a vu lors de l'émission précédente. Or, les protestants sont très actifs dans le domaine de l'enseignement. Est-ce que certains d'entre eux ont apporté une contribution particulière, significative, à l'élaboration de la loi de séparation entre les églises et l'État en 1905?
Déjà, il y a eu Raoul Allier qui a fortement réagi, donc un protestant qui a réagi par rapport au projet radical de séparation d'Émile Combes, qui s'est mobilisé, qui a mobilisé l'opinion publique pour qu'on n'arrive pas à une loi anticléricale qui ne respecte pas pleinement la liberté religieuse. Et ensuite, dans l'écriture même de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, il y a un rôle très important joué par Louis Méjean, qui a fortement contribué à la rédaction de cette loi, qui a été ensuite portée par Aristide Briand. Et donc, c'est important de retenir que c'est une version libérale qui a en fin de compte été promulguée en 1905 et que les interprétations plus restrictives, non libérales, ne respectent pas en tout cas l'esprit de cette loi qui affirme un grand principe de liberté dans son article 1.
Comment réagissent les institutions chrétiennes françaises au moment de l'adoption du texte ?
Alors, les protestants et les israélites ont d'emblée accepté la loi de 1905 et se sont organisés en associations cultuelles. Parce qu'un aspect important de cette loi, c'est dans son article 18, le fait que les associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Et donc, c'est ce qu'on appelle les associations cultuelles, loi de 1905. Oui. Alors, ce régime, ce mode d'organisation a très bien convenu aux protestants et donc les protestants ont formé de nombreuses associations cultuelles dès l'application de cette loi en 1906. Par contre, l'Église catholique a refusé cette loi qui ne correspondait pas à son ecclésiologie, car qui ne prenait pas en compte l'organisation hiérarchique de cette église et le fait que l'église locale est sous l'autorité de l'évêque. Et donc, ça aboutit à un refus de l'église catholique de se constituer en association cultuelle. Et il a fallu attendre 1923-1924 pour que l'église catholique accepte sous la forme d'associations diocésaines qui respectaient l'organisation et l'organisation hiérarchique de l'Église catholique dans le cadre d'une séparation des Églises et de l'État.
Si je comprends bien, en fait, il n'y a plus vraiment de différence d'appréciation ou de positionnement entre l'Église catholique et les protestants aujourd'hui.
Cette loi de séparation est pleinement acceptée aujourd'hui
par
l'Église catholique, par les églises protestantes, par les juifs, les musulmans. Et donc, il y a consensus aujourd'hui sur la nécessité d'une séparation des églises et de l'État. Toute la question, ensuite, ça sera de savoir comment cette loi a été interprétée, comment on souhaite qu'elle éventuellement elle évolue en fonction de l'évolution du contexte socio-religieux de la société française.
Alors, avant d'évoquer ça, on en parlera dans nos prochains rendez-vous. Il faut quand même signaler le cas de l'Alsace-Moselle, qui, à l'époque où la loi de 1905 est adoptée, est sous domination allemande et donc n'est pas soumise au même texte législatif.
Alors, effectivement, en 1905, l'Alsace était sous domination allemande, l'Alsace et la Moselle. Et donc, l'Alsace et la Moselle sont restées sous le régime du Concordat de 1801 et des articles organiques de 1802. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un droit local des cultes en Alsace-Moselle où les prêtres, les pasteurs et les rabbins sont rémunérés par l'État. Ça fait aussi partie du paysage français. La République et les cultes sont séparés. Mais en Alsace-Moselle et également dans les territoires d'outre-mer, il y a des régimes spéciaux qui ont subsisté. Et donc, il y a une certaine diversité, même si la République française, et c'est reconnu dans l'article 2 de la Constitution, est une république indivisible laïque, et ça a été introduit au moment de la Constitution de 1946, le terme de qualificatif de laïque de la République. Mais on voit qu'elle, tout en se proclamant laïque, la République française reconnaît en quelque sorte la séparation des églises et de l'État, fondamentalement, la laïcité. Donc on peut traduire par laïcité, même si le mot ne figure pas dans cette loi de séparation. Mais elle admet aussi d'autres régimes de rapport entre autorité politique et culte léguée par l'histoire en Alsace-Moselle et dans d'autres territoires.
Très brièvement, Jean-Paul Willem, comment a été interprétée et appliquée cette loi jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, on va pas retracer toutes les périodes. Aujourd'hui, il y a de nombreuses associations cultuelles et principalement protestantes, associations diocésaines pour le culte catholique. Alors, d'autres cultes comme le culte musulman choisissent aussi de s'organiser dans le cadre de l'association Loi 1901. On peut s'organiser Loi 1901 avec un objet cultuel et donc certains préfèrent ce mode d'organisation. Et donc aujourd'hui, la loi de 1905 est confrontée au renouvellement du paysage religieux de la France avec l'apparition du culte musulman en beaucoup plus grand nombre, le fait qu'il y ait des besoins d'édifices du culte et par rapport aux legs de l'histoire avec les édifices du culte catholique qui sont devenus propriété des communes, les cathédrales qui sont devenues propriété de l'État, comment accueillir des nouveaux cultes et avoir un comportement équitable par rapport aux nouveaux cultes, par rapport aux legs de l'histoire qui fait que les cultes anciennement reconnus portent encore la marque de toute cette histoire.
Merci Jean-Paul Willem de nous avoir parlé de ce sujet dont on voit encore toute l'actualité aujourd'hui. Et à bientôt pour notre prochain rendez-vous.
Merci.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.